RGB Info, le journal Olivier Zano, bonsoir.
Bonsoir. La haute école est victime d'une attaque informatique depuis cet après-midi. Sa direction a décidé de couper tous ses serveurs et messageries par précaution. Des investigations sont en cours. Le festival du film fantastique de Neuchâtel bat son plein. Au-delà des projections qui se déroulent sans accroc, c'est un problème de paiement qui s'est posé ce week-end. On vous explique pourquoi dans quelques instants. La conférence de Lugano s'est ouverte aujourd'hui sur des appels de la Suisse à l'Union européenne à une reconstruction de l'Ukraine accompagnée de réformes. Vous entendrez le président de la Confédération, Ignacio Cassis. Quelques orages sont encore possibles ce soir, mais le ciel devrait ensuite se dégager par le nord. Demain, mardi, c'est un temps bien ensoleillé qui nous attend. Quelques nuages au programme, mais qui ne devraient pas nous amener de pluie. Le mercure remontera un peu, 23 à 26 degrés sont attendus. La haute école ARC est coupée du monde sur le plan informatique. Son service de communication indique que l'institution est victime d'une attaque informatique depuis cet après-midi sur ses différents sites dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne. De manière préventive, tous les accès aux serveurs et à la messagerie ont été coupés. Mais il reste beaucoup d'inconnus à ce stade et les équipes informatiques sont à pied d'œuvre pour déterminer l'ampleur du dommage causé par les hackers. Les précisions de Brigitte Bachelard, directrice générale de la haute école ARC.
Alors, on a eu des suspicions de problèmes, effectivement, ce week-end, et on a eu sur le conseil du Centre national de cyber security, par précaution, on avait coupé les accès VPN, en pensant que c'était pas très important, comme attaque. Enfin, éventuellement comme attaque, on n'était même pas sûr. Et puis, ce matin, en effet, on a eu des messages qui nous ont clairement dit que, un groupe aurait accès, donc, à des données. Mais à ce stade, on ne sait pas encore quelles sont la nature de ces données. On n'est pas sûr que ce soit vraiment un accès à nos fichiers, plutôt à des fichiers qui seraient attachés à des messages, donc ce qui serait quand même moins grave, parce que c'est toujours ennuyeux quand on va sur les vrais fichiers qui sont dans les serveurs. Donc voilà, on en est là. On n'a pas beaucoup plus à ce stade d'informations, mais par précaution, le Fonds national de sécurité nous a proposé de couper tous les accès. Les messages, on les a laissés actifs. Le temps d'informer toute la communauté qu'on allait faire cette coupure.
Des propos recueillis par Leonard Reichen. Une cellule de crise est prévue demain matin pour faire un premier point sur l'ampleur de l'attaque et des mesures à prendre. Un homme a été agressé pour son téléphone portable hier matin à Bienne. Vers 6h du matin, il s'est fait prendre à partie par deux individus qui l'ont fait tomber au sol pour ensuite lui dérober l'objet. Blessé lors de la chute, l'homme s'est rendu par ses propres moyens à l'hôpital. Les deux auteurs ont pris la fuite. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Retrouvez la description des agresseurs sur rjb.ch. Autre appel à témoins, cette fois-ci pour un accident, toujours à Bienne. Il a eu lieu hier soir vers 20h50. Un motard a renversé une piétonne sur la rue des Prés à la hauteur du numéro 68. Les deux blessés ont été emmenés à l'hôpital et la rue a été fermée momentanément. La police cantonale bernoise cherche donc des témoins, en particulier une voiture blanche située près du passage piéton au moment des faits. Elle s'appelle Lydie Amy Faron. Elle est née à Tavannes en 1816 et s'est exilée à l'âge de 22 ans en Russie, où elle a officié pour la noblesse en tant que gouvernante et institutrice. Un destin particulier à qui la région rend hommage, ainsi qu'à quatre autres pionnières dans le cadre de l'exposition intitulée « Exceptionnelle ». Lydie Amy Faron a désormais sa statue devant l'hôtel de ville de Tavannes. Ses nombreux cahiers nous permettent de comprendre la vie d'une exilée au début du 19e siècle. La directrice de Mémoire d'ici, Sylviane Messerly.
Elle nous raconte sa vie quotidienne, comment elle est avec des enfants, avec des adolescents de cette famille noble. Et puis, elle nous raconte aussi ce qu'elle découvre. Elle sera en Crimée quand il y aura la guerre en Crimée. Elle nous décrit, par exemple, des masures de paille. Elle nous décrit des fleuves gelés, des fleuves qui sont extrêmement vifs. Elle nous décrit des steppes. Et il faut aller lire ses journaux pour découvrir un pays. Et parallèlement à cette découverte d'un pays, on a la vie d'une femme qui est au service d'une famille noble, qui doit mettre sa vie entre parenthèses, et puis qui est encore très très attachée à Tavannes. Donc très souvent, elle a un regard nostalgique sur la région. C'est toujours ce jeu entre la nostalgie du pays qu'on a quitté et puis cette ouverture à un monde extraordinaire.
Et retrouvez un sujet au complet sur la Tavanoise Lydie Amy Faron sur notre site internet. Cet été, RJB s'intéresse tous les lundis aux pionnières du Jura bernois. Nous évoquerons la semaine prochaine le destin d'Élise Benoît Huglet de Vauflin, sage-femme au 19e siècle. La piscine de Tramelan a été visitée cette nuit. Une ou plusieurs personnes ont forcé le local de la caisse ainsi que la buvette. Des employés l'ont constaté ce matin. Le ou les malfrats ont tenté de meuler le coffre-fort, mais ils ne sont pas parvenus à l'ouvrir. Plusieurs objets ont toutefois été dérobés. C'est ce que nous a confirmé tout à l'heure un employé de la piscine. La police cantonale bernoise s'est rendue sur les lieux. Elle a ouvert une enquête. Bonne nouvelle au Landron, l'eau peut de nouveau être consommée. Les résultats des analyses révèlent qu'aucun problème bactériologique n'a été constaté sur le réseau d'eau potable. Hier, la commune a annoncé que l'eau du robinet avait une mauvaise odeur. L'exécutif a préféré conseiller aux citoyens de ne pas la consommer avant que des analyses soient effectuées. Au final, il n'y a donc eu aucun danger pour la santé de la population. Le NIF ne saute pas encore le pas du cashless. Le paiement par carte n'est pas disponible dans tous les cinémas où sont projetées les œuvres du Festival international du film fantastique qui se tient en ce moment à Neuchâtel. La manifestation favorise pour l'heure un système hybride à l'inverse de Festineuch qui n'autorise désormais que le paiement par carte ou de la fête des vendanges qui mise sur un bracelet rechargeable. Les explications d'Audrey Mondy.
Les moyens de paiement sur les différents sites du NIF sont pour l'heure relativement hétérogènes. Concrètement, dans les salles de cinéma, il est possible d'acheter ses billets à choix en cash ou par carte. En revanche, les boissons et la nourriture type pop-corn qui sont vendues au même endroit ne peuvent être réglées qu'en cash. Résultat, notre rédaction a constaté que ce week-end, de nombreuses personnes se sont retrouvées embêtées au moment de payer car elles ne disposaient pas de monnaie suffisante. Samedi soir, en cette chaude soirée d'été où beaucoup de Neuchâtelois étaient de sortie, la plupart des bancomates du centre-ville ont vite été en rupture de stock et ne délivraient plus que des billets de 1000 francs, selon le témoignage de certains festivaliers. À l'heure où le cash se fait de plus en plus rare dans de nombreux porte-monnaies, le NIF n'est pas encore prêt à sauter le pas. Contacter les organisateurs explique que les machines à cartes sont disponibles uniquement dans les caisses principales du festival, c'est-à-dire celles qui permettent de vendre des billets pour des raisons logistiques. Il relève par ailleurs que ce système est en place depuis plusieurs éditions et souligne qu'ils n'ont pas constaté de problème majeur. Le festival précise encore qu'une réflexion au sujet de différents systèmes de paiement est en cours, mais pour l'édition actuelle, c'est le système hybride qui a été privilégié. Pensez donc à passer au bancomat avant de vous rendre dans les différents cinémas de la manifestation.
Et on le rappelle que le NIF, c'est encore jusqu'à samedi à Neuchâtel. L'aéroport de Zurich est prêt à affronter la vague estivale qui s'annonce importante. L'opérateur du tarmac zurichois a suffisamment de personnel pour faire face à la recrudescence du trafic aérien cet été. Au cours des prochaines semaines, le plus grand aéroport de Suisse verra défiler certaines journées d'affluence entre 80 000 et 90 000 passagers. La direction recommande de prévoir suffisamment de temps en amont et d'arriver jusqu'à 3 heures avant le départ du vol. Les vacances à l'étranger se précisent pour beaucoup d'entre vous, mais l'année 2022 est jusqu'à présent aussi synonyme de reprise pour le tourisme suisse. L'envie de voyager est de retour. Après 2 ans de pandémie, les agences de voyage voient affluer les clients. Cela risque de ne pas durer et la branche devrait être confrontée à de nouvelles difficultés l'an prochain. C'est ce qu'estime la présidente de l'Association des professionnels du voyage. Il n'est pas facile de parler de reconstruction de l'Ukraine alors que des missiles russes frappent ce pays. Aujourd'hui, au premier jour de la conférence mondiale sur l'Ukraine à Lugano, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a tenu ses propos lors de la conférence de presse commune avec Ignacio Cassis. Le président de la Confédération a lui accueilli les représentants d'État en compagnie du premier ministre ukrainien Denis Shmigal. Ce dernier a exprimé des pistes pour financer les milliards nécessaires pour son pays, comme l'utilisation des fortunes bloquées des oligarques russe, pas si simple selon Ignacio Cassis.
La question de savoir si l'argent gelé actuellement à cause des sanctions et qui appartient aux oligarques pourra être confisqué, donc désapproprié des propriétaires pour en faire autre chose, évidemment c'est une discussion qui nécessite un large débat public. J'ai vu que le Canada a déjà fait des pas très concrets dans ce cas-là, mais en même temps, il dit que ce sera les tribunaux qui devront voir si c'est compatible avec nos constitutions. Il s'agit d'exproprier de l'argent de leur légitime propriétaire. Ceci nécessite une base légale et constitutionnelle parce que la propriété est protégée. Mais évidemment que ce chemin mérite une discussion approfondie qui est d'ailleurs déjà en cours.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Lugano, Frédéric Nejat Toulami. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui exprimé cet après-midi en visioconférence depuis Kiev. Quant au premier ministre britannique Boris Johnson, il a annoncé le souhait de son pays d'organiser la prochaine conférence pour la reconstruction de l'Ukraine en 2023. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine. Cette annonce intervient un jour après la conquête de l'intégralité de la région de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. La région de Lugansk et celle voisine de Donetsk forment le Donbass, ce bassin minier de l'est de l'Ukraine que les forces de Moscou entendent conquérir dans son intégralité. L'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, est bien lié au réchauffement climatique. Confirmation ce jour du Premier ministre italien au lendemain de la catastrophe. Celle-ci a fait au moins 7 morts et 8 blessés. 14 personnes sont également signalées manquantes par leurs proches, mais leur présence sur place au moment où le glacier a rompu n'est pas confirmée. L'auteur présumé de la tuerie qui s'est déroulée hier dans un centre commercial de Copenhague a été placé aujourd'hui en détention en psychiatrie. Le suspect de 22 ans, arrêté peu après la fusillade, a été présenté à un juge du tribunal de la capitale danoise qui lui a signifié les poursuites pour 3 meurtres, dont celui de 2 adolescents et 7 tentatives de meurtre. La police avait annoncé ce matin qu'il était connu pour des antécédents psychiatriques.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h11.
Sport. La suite des huitièmes de finale au programme ce lundi à Wimbledon. Le Chilien Christian Garin a dominé cet après-midi l'Australien Alex de Minaur. Victoire en 5 manches, 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6. L'Australien Nick Kyrgios rejoint lui aussi l'écart après sa victoire devant l'Américain Brandon Nakashima. 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2. Chez les dames, c'est la Kazakh Elena Rybakina qui rallie les quarts de finale. Elle a dominé la Croate Petra Martic 7-5, 6-3. Le monde entier se souvient de son arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro 2021. Christian Eriksen a donné son accord verbal à Manchester United après avoir fait son retour au football la saison dernière avec Brentford. Le meneur de jeu danois devrait s'engager pour 3 ans avec le club mancunien, selon plusieurs médias anglais. Le joueur de 30 ans qui vit avec un pacemaker depuis son accident doit encore satisfaire à la visite médicale. Merci de votre attention, je vous souhaite une très belle soirée.